l'invité de la rédaction, présenté par Anthony Torzek.
Il y a 70 ans, la France était libérée de l'occupant allemand. C'est ce qu'on a célébré évidemment vendredi dernier, le 8 mai. Mais cette libération n'a pas été uniforme sur le territoire français. L'ouest de la France, pourtant libéré en août 44 par les troupes alliées, a connu une résistance allemande, les fameuses poches, des zones de repli de cette armée. Un colloque de deux jours s'ouvre justement aujourd'hui à Saint-Nazaire sur ces poches de l'Atlantique. Ce colloque international est organisé par l'Université de Nantes et le Centre de Recherche en Histoire Internationale. Il sera notamment question de la poche de Saint-Nazaire, dernier refuge des Allemands sur la Loire-Atlantique. Un spécialiste de ce chapitre de notre histoire est notre invité de la rédaction, Michel Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et également vous avez écrit de nombreux ouvrages sur cette poche de Saint-Nazaire, dont notamment un ouvrage à Geste Édition. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette poche de Saint-Nazaire dans les années donc 44-45 précisément? Est-ce que vous pouvez nous délimiter cette poche? Où se trouvait cette poche et pendant combien de temps?
Eh bien, elle s'étend au nord de l'embouchure de la Vilaine jusqu'au sud à Pornic. Elle se déploie le long de l'estuaire vers l'est jusqu'à Cordemais. C'est une zone de défense où sont enfermés 30 000 soldats allemands avec près de 130 000 civils. C'est une zone qui fait 1800 km², semi-circulaire d'environ 25 km de rayon. Et il y a un front continu d'environ 100 km qui est encerclé par des forces américaines au nord, quelques milliers d'hommes d'une division d'infanterie américaine, et par 21 bataillons FFI, qui représentent environ 16 000 hommes.
Donc les derniers Allemands sur la Loire-Atlantique se trouvaient dans cette poche de Saint-Nazaire?
Alors, il y avait à peu près 30 000 soldats allemands qui étaient sur le repli de la Bretagne après l'avancée fulgurante de Patton la première semaine d'août 1944.
On vivait comment dans cette poche de Saint-Nazaire? D'abord, j'imagine qu'on était informé que l'ensemble du pays était libéré.
Mais cette poche se constitue graduellement. Elle va se constituer à partir, de la première semaine d'août 44 au nord et puis, début septembre au sud, parce qu'il y avait une partie sud qui était empochée aussi. Mais très vite, les limites vont être complètement bloquées par les Allemands et par les forces d'encerclement. Et plus aucun civil ne pourra passer à travers. Et les informations passeront aussi difficilement. On sait bien sûr, que les villages, qu'on appelle en France, qui sont de l'autre côté des lignes, sont libérés, mais les contacts sont devenus quasiment impossibles, sauf au risque de sa vie.
On va rappeler évidemment le contexte. À cette époque-là, les Alliés sont arrivés, ont libéré la grande partie de la France, mais ces poches représentent combien de pourcents du territoire?
Les poches de l'Atlantique, c'est-à-dire, on peut inclure aussi Dunkerque qui n'est pas sur l'Atlantique, mais Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Royan, ça représente environ 1% du territoire. Et il n'y a plus un seul soldat allemand sur le sol français depuis le 5 février, hormis dans ces poches.
Alors quelle est la réaction justement des Alliés et de Gaulle face à ces poches? Il y a un ultimatum qui est donné, j'imagine.
Oui, pour les Alliés, à partir du moment où les Alliés vont disposer du port de Cherbourg réhabilité bientôt et puis du port d'Anvers surtout au mois de novembre, ils vont abandonner ces ports en eau profonde sur l'Atlantique. Brest a été détruit, Lorient et Saint-Nazaire sont empochés et donc les Alliés se sont retournés vers l'Est et abandonnent les poches à la garde d'une division d'infanterie et des forces françaises. Quant à De Gaulle, les poches représentent pour lui un enjeu politico-militaire très important.
Pourquoi?
Il veut libérer les poches de l'Atlantique autant que possible par ses propres forces parce qu'il considère tout simplement que ce serait un marqueur symbolique très important face aux Alliés. On connaît les difficultés qu'il a eues avec les Alliés, avec toutes ces questions autour de l'Amgotte à l'été 44. Et donc, il s'est fixé la tâche de libérer les poches par lui-même. Et la seule qu'il va réussir à libérer vraiment, ce sera celle de Royan. Le 18 avril 1945, mais dans des conditions tellement calamiteuses que, d'une certaine façon, ça protégera sans doute les autres poches d'un assaut du même type. Et on peut imaginer que si on s'était livré au même assaut sur la poche de Saint-Nazaire, ça aurait été une grande catastrophe parce qu'il y aurait vraisemblablement eu un massacre.
Alors comment se sont déroulées les négociations entre les Alliés et les Allemands pour la libération de cette poche de Saint-Nazaire?
Alors c'est les Alliés, c'est aussi les Alliés, y compris donc les Français. Il faut rappeler une étape importante. La décision stratégique est prise, on peut le dire, le 10 avril. Le colonel Félix à Nantes fait prévenir le sous-préfet Benedetti, qui Saint-Nazaire. Et je cite que l'attaque de la poche est programmée et irrévocable. Elle aura lieu par terre, par air et par mer. Et elle a été fixée vers le 20 avril. Et à ce moment-là, on voit Benedetti envoyer Tosquer, le maire de Saint-Nazaire, trouver Jungk, le général commandant la poche de Saint-Nazaire, pour tenter une négociation. Mais Jungk répond qu'il fera détruire toutes les installations du port de Saint-Nazaire. Et alors on voit Benedetti à ce moment-là, de sa propre initiative, foncer à Nantes, rencontrer l'état-major, puis à Angers, puis à Paris, à l'état-major de De Gaulle lui-même, où il va rencontrer l'état-major de De Gaulle, Cévez, Juvin, et pour essayer d'obtenir un sursis exécution. Il va revenir avec une réponse dilatoire qui l'autorise à continuer de négocier. Mais bon, là, il va intervenir des choses sur d'autres plans. Le 18 avril, comme je vous l'ai dit, c'est la chute de Royan. On voit passer au-dessus de la poche, ici, la poche de Saint-Nazaire, les escadrilles qui viennent de bombarder Royan. Et on se dit qu'on va subir bientôt le même assaut.
C'est pas ce qui va se passer.
Alors, c'est pas ce qui va se passer. Pour des raisons qui tiennent sans doute aux décisions de l'état-major français de Gaulle lui-même, mais aussi à ce qui se passe sur le front principal. Le 21 avril, les soviétiques sont à Berlin. Le 30 avril, Hitler se suicide. Le 2 mai, c'est la chute de Berlin. Donc on voit que les choses se développent sur le front lointain. D'une certaine façon, ça va protéger la poche de Saint-Nazaire d'un assaut de vive force.
Saint-Nazaire et Nantes, qui avaient beaucoup été bombardés les années précédentes, là, se trouvent un peu sauvés, on va dire, grâce à ces négociations.
Alors sauvés, pas vraiment, parce que jusqu'au 6 mai. Le 6 mai, on voit encore le général de l'Armina, qui commande les forces de l'Atlantique, inspecter les lignes de défense du nord de la poche, sur l'Isaac par exemple, où il prévoit de faire poser des ponts flottants. Il demande parmi les soldats qui sont les bons nageurs, et il programme encore un assaut de la poche le 10 mai. Mais bon, là, le même jour, le 6 mai, Dönitz reconnaît que le combat à l'ouest est perdu. On va quand même rentrer dans des négociations sérieuses.
Et les Allemands, le 7 mai. Les Allemands s'auto-constituent prisonniers à quel moment ?
Alors, ils vont s'auto-constituer prisonniers après justement ces négociations du 7 mai, puis du 8 mai. Ils vont s'auto-constituer prisonniers à partir du 10 mai.
Est-ce qu'il y a ensuite une entrée triomphante, on va dire, des troupes alliées dans la poche de Saint-Nazaire ?
Alors, l'entrée triomphante, c'est pas une entrée triomphante, ça va être une entrée sous sa forme militaire classique qui va intervenir le 11 mai. Les convois militaires alliés vont quitter Nantes par le nord et par le sud pour rejoindre les deux poches, la poche nord et la poche sud. Précédé d'un détachement de circulation routière de la 25e division d'infanterie. On va placer des policiers, des agents du 2e bureau, et puis enfin, les bataillons qui gardaient la poche, les bataillons FFI, devenus armée régulière, vont franchir les No Man's Land et les lignes de défense allemandes. Ils vont rentrer par le nord, par Fégréac et par Fès-Bretagne, en quatre convois. Et par le sud, ils vont rentrer par la Feuillardet, la Chicodet et par Pornic.
Michel Gauthier, vous êtes spécialiste, historien, spécialiste de ce chapitre de notre histoire, de cette poche de Saint-Nazaire. Qu'ont-il fait ensuite qu'est-ce que ces alliés ont fait de ces prisonniers allemands? Comment ont réagi d'ailleurs les Allemands qui se trouvaient dans la poche?
Alors, ces Allemands, ils étaient épuisés. Ils s'attendaient de toute façon à finir prisonniers ou tués, puisqu'ils s'attendaient eux-mêmes à une attaque de vive force. Ils vont donc se rendre vers des camps de regroupement, au nord comme au sud. Ils vont se débarrasser eux-mêmes de leurs armes, de leurs munitions.
Pas d'acte de violence des Français à ce moment-là envers les Allemands ?
Il y a eu quelques actes de représailles. Il y a eu quelques actes de représailles, il y a eu quelques exécutions, il y a eu quelques soldats ou officiers sortis des rangs et exécutés. Ces hommes-là, environ 30 000, vont donc être concentrés dans des camps de regroupement où ensuite les autorités civiles et militaires vont venir extraire ces hommes pour les envoyer sur des chantiers de réhabilitation du territoire, pour faire du déminage, boucher les tranchées, etc. Et en Loire inférieure, puisque c'était la Loire inférieure, ces ces hommes-là vont rester prisonniers pour certains pendant 3 ans. Ensuite, certains vont rester en Loire-Inférieure comme prisonniers libres. Il y en aura environ 1 millier qui restera même en Loire-Inférieure et qui fera souche dans la région.
Et les civils, les habitants de Loire-Atlantique, les habitants de La Poche, ils retrouvent leur maison, enfin pour ce qui reste de maison, j'imagine?
Alors ça dépend des zones. Toutes les zones qui étaient, enfin toutes les fermes, par exemple, qui étaient proches des Lomansland, en particulier dans la partie sud de La Poche, dans la région de la Chicodèche, Auvet, etc., où il y a eu énormément de fermes évacuées, je dirais même des centaines de fermes évacuées, on va retrouver ces biens dans un état assez déplorable, pillés par les armées des deux camps, et puis parfois aussi par des civils. Et donc, il y aura un état de délabrement assez terrible dans certaines fermes. Mais il faut signaler une chose, c'est que cette poche, elle est libérée, dit-on, le 11 mai, mais pour les civils, le passage libre à travers les lignes ne va se rétablir vraiment qu'à partir du 9 juin, puisque toute cette zone de la poche va être maintenue en état de siège du 11 mai jusqu'au 9 juin. Et on verra, par exemple, des prisonniers français faits prisonniers en 40 revenir d'Allemagne et ne pas pouvoir rentrer dans leur famille avant le 9 juin parce que toutes les lignes sont encore contrôlées.
La dernière question que j'aimerais aborder avec vous, Michel Gauthier, c'est celle de la place de l'Église pendant cette poche de Saint-Nazaire. Est-ce qu'il y a eu un appel particulier de l'évêque? Est-ce qu'il y a eu des prêtres également qui ont eu une part non négligeable dans cette libération?
Alors, il n'y a pas eu d'appel particulier d'évêque, mais je dirais qu'il y a eu des prêtres francs-tireurs. C'est-à-dire des prêtres qui, pour certains même, étaient dans la résistance depuis déjà un moment. On pourrait citer, par exemple, l'abbé Henri Ploquin, résistant depuis 1943, qui était aumônier du maquis de Saffré. Il a été arrêté avec le 28 juin, en même temps qu'on détruisait ce maquis. Il a été déporté en Allemagne, libéré par les Russes en 1945. On pourrait citer aussi l'abbé Jean-Baptiste Serrault, le curé Jean-Baptiste Serrault de Chevet, qui était un authentique résistant, qui a pris beaucoup de risques en aidant le premier GMR du capitaine Beignet, en aidant un aviateur allié à rejoindre l'Angleterre. On pourrait citer aussi les aumôniers les aumôniers des bataillons FFI, comme François Duplessis de Grenadan, ou encore au nord, avec le premier bataillon du commandant Cochet, une figure aussi très intéressante, l'abbé Charles Kerruel, qui partait en patrouille avec ses hommes. Bon, il y avait des curés, on pourrait citer aussi une espèce de curé paysan à la Cicodet, le curé Fernand Olivo, qui par exemple chassait les guetteurs allemands de son clocher, et surtout a soutenu jusqu'au bout sa population contre toutes les exactions allemandes.
Diriez-vous que ces hommes ont été plutôt des exceptions dans l'histoire chrétienne à cette période-là?
Les curés et les notables, les châtelains par exemple, avaient un statut spécial par rapport aux occupants allemands. D'une certaine façon, on respectait le titre nobiliaire, on respectait la robe du curé. Mais d'engagement dans la résistance, il y en a eu fort peu, bien entendu, jusqu'à cette période du basculement après le débarquement, où on a vu l'Église comme l'ensemble de la population se ranger derrière les forces de libération, derrière les FFI, mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu des consignes particulières de l'Église elle-même pour rejoindre les forces de libération.
Merci Michel Gauthier d'avoir été avec nous. Vous êtes historien, auteur de nombreux ouvrages sur la poche de Saint-Nazaire, notamment un ouvrage à Geste Édition. Et on vous retrouve aujourd'hui sur Saint-Nazaire également pour ce colloque international qui s'ouvre aujourd'hui pendant 2 jours sur Saint-Nazaire, sur ces poches justement de l'Atlantique. Merci à vous.
Je vous en prie, merci.
C'était l'invité de la rédaction.